En 2016, on est allé en France et on a été là à peu près comme 3 semaines et on a visité plusieurs églises. À Paris, dans des petits villages, il y avait des églises très grandes, probablement construites à travers plusieurs années par des architectes de renom. Et à l'intérieur, on pouvait voir des sculptures, des peintures, des vitraux, et c'était pas le commun des mortels qui avait fait cela. Souvent, c'était des artistes de renom. En 2003, on est allé à Rome. Et qu'est-ce qu'il faut visiter à Rome? Je n'ai pas trouvé la basilique baptiste évangélique là-bas à Rome, mais il y avait Saint-Pierre de Rome. Et quelle construction! Imaginez les artistes qui ont peint le plafond. C'est nous autres, on a dû des tuiles suspendues. Eh bien, plafond suspendu, c'est pas pire, mais pas beaucoup de dessins. Alors, je peux vous dire que c'était toutes des bâtisses, c'était toutes des églises. Quand on regardait ça, là, c'était vraiment excellent. Il fallait visiter ces églises-là. On n'avait pas le choix. Ici, c'est pas pire. On a une grande salle quand même. On a un kiosque d'information en arrière. On a le café. On a un grand stationnement. Alors, comme on dit au Québec, c'est pas pire. C'est assez bien. Certains diraient ça pourrait être mieux. Pour ceux qui me connaissent, quand quelqu'un se blesse, se fait mal, se cogne sur le pouce avec le marteau, j'ai appris quand j'étais travailleur à la construction de dire ça pourrait être pire. Et là, les gens croient que la suite va démontrer une grande compassion de ma part. Mais la suite, c'est ça pourrait être moi. Alors là, les gens, là, toutes pensées que j'ai de l'empathie ou de la compassion disparaît. Mais vous savez, les gens, quand même, ils pourraient dire ça pourrait être mieux. Ça serait parfait si ce n'était de toutes ces personnes qui viennent à l'Église. Eh bien, que voulez-vous? Mais malheureusement, l'Église, ce n'est pas la bâtisse, ce n'est pas le résultat des architectes. Ce ne sont pas les grandes peintures. On sait aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai appris dans les années 80 que l'Église, c'était les personnes. Et c'est ça le problème, n'est-ce pas? Si tout le monde était comme moi, vous n'avez jamais eu ces pensées-là quand vous êtes avec une personne là, qui est irritant, qui vous dérange un peu, vous dites, « Ah, si tout le monde pouvait donc être comme moi, n'est-ce pas? Ça serait excellent. Je pourrais avoir la musique que je veux, les chants que je connais. Où est Alexandre, là? OK. Je pourrais aller, je serais tout le temps sur la bonne note, la mienne. Parce qu'on me dit, Gilles, t'es pas sa note. Mais là, si tout le monde est comme moi, même si je suis pas sa note, on serait tous sur la même note. Au même rythme, vous allez remarquer que je tape jamais des mains parce que je suis pas capable de chanter et de taper des mains. Puis c'est pas parce que je suis un homme, il y a des femmes qui ont le même problème. Là. Parce que je suis pas capable de garder un rythme. Je pourrais avoir mes instruments parce que même si je ne suis pas musicien, j'ai mes instruments favoris. Vous autres aussi, vous avez vos instruments favoris. Ça serait mon style de musique. Mon style. Vous savez, pour le pasteur à l'église du Plateau, André Constant, s'il avait son choix, les chants, ça serait du jazz fusion. Vous imaginez? Du jazz fusion en train de louer Dieu avec du jazz fusion. Pour moi, c'est impensable. Et depuis que j'ai écouté le film La Grande Séduction, je comprends pourquoi c'est impensable aussi. Mais pour un autre frère, Denis Arcan, qui était ici, eh bien, le style de musique, ça serait du country. Mais l'Église consiste de personnes et C'est comme ça. S'il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'Église. Et elle consiste de personnes que Dieu nous a envoyées, attirées par son Évangile, qu'un chrétien, comme moi, comme vous, qui est en transformation, lui a communiqué, des fois d'une façon claire, des fois d'une façon pas si claire, mais Dieu l'a convaincu par son esprit. Ce sont des personnes de toutes sortes d'arrière-plans, n'est-ce pas? On a juste à regarder l'Assemblée ici, les arrière-plans varient. Toutes sortes de couleurs, toutes sortes de langues. Même l'arabe, on l'accepte. Toutes sortes de portefeuilles, des riches, des moins riches. Toutes sortes de statuts sociaux. On avait un docteur Johnson avec nous, avec quelqu'un qui est électricien, qui est ouvrier sur la construction. Toutes sortes de personnes. Et parfois, il y a même des personnes qui sont ici, à même l'Église, qui n'ont pas fait une décision encore. Parfois, c'est des enfants de parents chrétiens qui sont membres, qui font partie de l'Église. Mais il y en a qui cherchent. Et il y en a peut-être ce matin des gens qui sont comme sur la bordure, n'ont pas encore décidé, mais ils cherchent. Ils cherchent une relation avec Dieu. Il y a peut-être une plus grande concentration de personnes qu'on pourrait dire excentriques. Porter des gogounes pour jouer la musique le dimanche matin, pour moi, c'est un peu excentrique. Et je dois confesser que quand les gars portent des T-shirts, et des jeans le dimanche matin pour la louange, eh bien, moi, je trouve ça excentrique. Mais pour eux, quelqu'un qui porte un veston, c'est excentrique, que voulez-vous? Il y a probablement une grande proportion de gens aussi qui sont blessés, brisés par la vie. Et je pense que c'est une vérité aussi pour l'Église de Jésus-Christ. Mais malgré cette diversité, dans l'Église de Jésus-Christ, on peut voir quand même un amour les uns pour les autres. Un désir de faire du bien. Parfois, on s'irrite. On demande pardon. Il y a quand même quelque chose de spécial dans l'Église de Jésus-Christ. C'est loin d'être parfait, tous ces gens-là ensemble. J'aime le dicton qu'un frère avait dit, « Si tu cherches une église parfaite, elle cessera de l'être aussitôt que tu vas t'y joindre. » Et je crois que c'est vrai. L'église de Jésus-Christ, ce sont des personnes que Dieu est en train de transformer. Aucun de nous est arrivé. Parfois, on a l'air d'être en avant des autres, mais dans d'autres domaines, on est en arrière des autres. Ce matin, je vais vous parler du passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 17 au chapitre 3, verset 13. C'est un passage où Paul s'adresse avec son cœur aux Thessaloniciens. Et dans ce passage-là, je vous dirais qu'il nous donne toute une leçon sur qu'est-ce qui est important dans l'Église de Jésus-Christ. Et l'une de ces leçons-là, c'est qu'il faut que notre vie chrétienne soit axée premièrement sur les personnes. On ne doit pas être axé sur les tâches, sur les bâtiments, sur les programmes, mais on doit avoir l'accent sur les personnes. C'est pas que tout ça est secondaire. C'est pas que les doctrines, la vérité est secondaire. Non, ils sont importants. C'est pas mal important qu'on gère le projet de construction. C'est important que le service du dimanche matin soit plaisant, agréable, qu'il réussisse à nous amener avec une relation intime, sincère avec Dieu. Et parfois, qui aide à ce qu'on puisse confesser, qu'on puisse chercher une réconciliation. C'est important. Mais ce qui est le plus important, ce sont les gens qui sont dans l'Église, les gens de l'Église, et qu'on soit disposé à prendre soin d'eux. Et deuxièmement, l'autre leçon que Paul nous donne, c'est que nos prières doivent refléter cela. Si ce sont les personnes qui sont importantes, quand je prie pour les personnes. Je prie pour leur bien. Je prie pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu, pour qu'ils soient réconciliés s'ils sont en colère contre Dieu parce qu'ils vivent une épreuve. Je prie pour que les personnes dans l'Église grandissent dans le Seigneur. Et Paul prie pour cela. Il prie pour ce qui a une portée éternelle. Quand notre auto brise, Seigneur, donne-moi un garagiste qui est honnête et qui ne changera pas des pièces pour rien. Mais l'auto va durer 5 ans, 6 ans, prochaine réparation. Mais quand je prie pour les personnes, bien, ça a une portée éternelle. C'est beaucoup plus important, n'est-ce pas? Et peut-être que Dieu veut te bénir à ce que tu te débarrasses de ta vieille auto pour une autre, on ne sait pas. Eh bien, presque dans chacune de ses épîtres, Paul mentionne à ses lecteurs qu'il prie pour eux. Je n'ai pas vu une seule fois où Paul prie, « Oh Seigneur Dieu, assure-toi que telle église à Thessalonique puisse acheter un terrain et construire une bâtisse. » C'est bon de prier comme ça, mais on n'en voit pas des prières comme ça ici, dans les épîtres de Paul. Il prie pour les gens. Il prie pour l'accroissement des gens, pour qu'ils puissent grandir dans le Seigneur. On peut voir son cœur, si on lit on va lire le passage qui est dans, je ne sais pas si ça va venir là, mais je vais commencer et on va commencer à 2:17, n'est-ce pas, 1 Thessaloniciens. « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon, je vais l'avancer, de rester seul à Athènes et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur, dans l'Évangile de Christ pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous espérons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Voici comment est-ce qu'on peut la mettre blank. On va revenir à celle-là tantôt. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est soulever certains points de ce passage que Paul nous donne en examinant ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dégage, quels sont les enseignements qui en ressortent. Si on met la diapositive qui montre un peu l'arrière-plan, c'est lors du deuxième voyage missionnaire que Paul et Silas se rendirent à Thessalonique, probablement entre les années 48 ou 49, et ils fondèrent l'église de Thessalonique. Paul aurait passé environ 4 semaines. Certains pensent que c'est plus comme 4 mois. Et pendant qu'il était à Thessalonique, il a, comme de raison, annoncé l'Évangile aux Juifs, aux non-Juifs, et leur enseigner les principes fondamentaux de la foi. Pendant son séjour, les Thessaloniciens avaient répondu d'une façon phénoménale. Et si vous lisez le chapitre 1er, vous allez voir à quel point ils avaient répondu à l'Évangile. Ils étaient devenus des imitateurs de Paul, et Paul s'en réjouissait. Leur renommée retentissait dans toute la région. Paul et Silas laissèrent Thessalonique lorsque leur séjour devint dangereux. Ils se rendirent à Bérée, si on lit dans Acte 17. Ils se rendirent là car leur séjour à Thessalonique devenait un peu dangereux. Mais les Juifs de Thessalonique ont appris que Paul et Silas étaient à Bérée. Ils envoyèrent des gens pour agiter la foule. Et Paul se rendit donc à Athènes seul. On pense que c'est quand il était à Corinthe qu'il a rédigé la lettre de 1er Thessalonicien. Ça faisait donc 9 à 10 mois qu'il avait laissé Thessalonique. 9 à 10 mois qu'il n'avait pas vu les Thessaloniciens. Il n'avait pas envoyé de courriel, aucun message texte. Et c'est la première lettre qu'il envoie, la première communication. Et vous pouvez vous imaginer qu'il se demandait toutes sortes de questions. Et on le voit au verset 1, « C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé notre frère Timothée pour obtenir des nouvelles. » Et au verset 5, on voit « Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. » Paul était certainement préoccupé. Comme on voit dans le texte, il n'en pouvait plus. Et si on regarde au verset 17, on voit à quel point Paul tenait les Thessaloniciens proches dans leur cœur. Il dit, séparés de vous, de corps, mais non, de corps, mais non de cœur. C'est contraire au dicton qu'on entend, loin des yeux, loin du cœur. Ici, Paul était séparé d'eux, mais il avait encore les Thessaloniciens en affection et il manquait d'être avec eux autres. Et on voit à la fin du verset 17 qu'il avait un grand désir de les revoir. Alors, on voit que Paul aimerait beaucoup être en leur présence. Il n'en pouvait plus, il envoie Timothée. Pour Paul, ce n'était pas simplement le fait d'avoir visité et fondé une église et ensuite de les laisser dans les mains de Dieu. J'ai fait mon travail. Je suis allé là, je les ai évangélisés. Non, non. Son désir était de continuer à prendre soin d'eux, continuer à les affermir, continuer à les enseigner. C'est pas mal contraire à la situation dans des cultures, mais je vous dirais même ici, où le père, après que les enfants sont nés, laisse à la mère le devoir de prendre soin d'eux, de les élever, et lui s'en va, les abandonne. Ce n'était pas le cas de Paul. Il désirait ardemment les voir face à face, car il voulait les affermir, les exhorter, les encourager dans les tribulations auxquelles ils faisaient face. Il avait peur que l'effort, le travail qu'il avait fait aurait été en vain, selon le verset 5. Par crainte, il dit, par crainte que le tentateur ne vous ait tenté. Toutes sortes d'occasions où le doute peut s'installer. Le doute s'installe concernant la personne qui nous a présenté l'Évangile. Il n'est pas crédible. On ne peut pas lui faire confiance. Le doute s'installe sur la vérité du message qu'on a devant nous. Et si on n'est pas encouragé, exhorté, affermi, eh bien, graduellement, on délaisse la foi. Et ça préoccupait grandement l'apôtre Paul. Je peux imaginer les préoccupations de M. Alexenia, qui est ici dans les années 84-85. Il avait fondé l'Église, qui a été fondée en 77, comme vous le savez, on vient de fêter les 40e anniversaire de l'Église. Et en 84, il laisse la région pour aller à Montréal afin de diriger Sembec. Imaginez le questionnement qu'il avait. Est-ce qu'un tel va être fidèle? Est-ce qu'il va jouer le rôle qu'il a besoin de jouer? Est-ce que l'autre, peut-être un Gilles, va faire le trouble? Est-ce qu'on va le reprendre comme il faut? Eh bien, Paul avait ce même genre de questionnement. Maintenant, qu'est-ce qui motivait Paul? Et c'est pas mal important qu'on le considère et qu'on le comprenne. Parce que Paul était motivé, vous pouvez déjà le dire vous-même, par une grande affection, un amour vrai, sincère pour ceux à qui il avait annoncé l'Évangile. C'est un amour qui ressemblait à l'amour de Christ pour nous. C'est un amour qui ressemble à l'amour d'un père pour ses enfants, où on veut le bien de nos enfants. Paul ne cherchait pas son intérêt, ne cherchait pas à augmenter son contrôle sur eux. Il fait certain de leur rappeler qu'ils ne cherchaient pas leur argent. Et on voit cela dans le début du chapitre 2. Évidemment, il a dû avoir des gens qui disent, « Paul, il n'est même plus là. » Puis quand il était là, c'est pour vous contrôler, c'est pour votre argent qu'il voulait discréditer Paul. Si on discrédite le messager, on discrédite le message aussi. Paul était au courant de ça. Mais Paul avait des motifs purs. Il ne cherchait que le bien spirituel des enfants de Dieu. Ce n'était pas pour se vanter des fruits de son ministère. et ni par une obéissance religieuse qu'il priait pour les gens de Thessalonique. C'est parce qu'il avait une vive affection, un amour pour les gens qu'il avait côtoyés, qu'il avait évangélisés. Et dans le chapitre 2 de 1 Thessalonique, il dit qu'il avait travaillé nuit et jour. Il avait été comme une mère pour les gens de Thessalonique. Il y avait une relation là. Son objectif mentionné dans le verset 2 ici que vous voyez, c'était afin d'affermir, d'exhorter au sujet de leur foi. Il savait, selon le verset 3, qu'ils étaient persécutés. Et il dit, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. Et les épreuves viennent nous défier, viennent nous mettre à l'épreuve. Et Paul le rappelle qu'il les avait enseignés que quand, à son départ, qu'ils seraient persécutés. Et il leur dit, il veut leur rappeler que ce qu'il arrive n'est pas une surprise, qu'il les avait enseignés dans ce sens. Et c'est pour leur donner de la confiance. Paul est concerné de leur bien. Son but est d'affermir, d'exhorter dans leur foi. Il ne cherche pas son intérêt. Au verset 19 du chapitre 2, c'est l'autre piton, hein? En effet, quelle est notre espérance, dit-il, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Qu'est-ce qu'il signifie? Paul se met quand le Seigneur va être de retour. Il anticipe le jour de l'avènement et il se voit devant le Seigneur à rendre compte. Un peu comme un employé qui a accompli un travail et il est devant ceux pour qui il a fait le travail. Ça peut être un client, ça peut être son patron. Et Paul dit, la seule récompense que je veux, la seule gloire, les seuls hommages que je désire, c'est la joie de voir les hommes et les femmes de Thessalonique qui ont accepté le Seigneur et qui, eux aussi, sont en présence de mon Sauveur. Imaginez-vous. C'est ce qu'il désire, c'est ce qui fait sa joie. Sa joie est certainement comparable à la joie que des parents ou des grands-parents ont quand leur enfant qui a laissé la foi, qui est allé dans le monde, soudainement, Dieu fait un miracle et ils reviennent à Christ et donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est le genre de joie qui animait l'apôtre Paul. Il dit au verset 20, « Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Eh bien, c'est pour cette raison qu'il a travaillé tant comme il le décrit dans le chapitre 2, verset 1 à 16. Ce n'est pas le nombre d'épîtres qu'il va dire à Dieu, « Regarde, toutes les épîtres. Regarde le pourcentage du Nouveau Testament que j'ai écrit. » Il ne dira pas, « Seigneur, regarde là comment j'ai bien parlé à Athènes devant tous ces philosophes. Comment je leur ai tenu tête. » Ce n'est pas ça qu'il mentionne ici. Il dit, « Ce qui va faire ma joie, c'est voir les hommes et les femmes que j'ai pu influencer à venir au Seigneur et que j'ai pu influencer à grandir dans le Seigneur et devenir de plus en plus à l'image de Christ. C'est ce qui va faire ma joie au jour de l'avènement. » Eh bien, c'est ce qui doit nous animer, nous aussi. Il y a un frère anglophone qui a œuvré dans plusieurs rôles de notre famille d'Église. Je ne mentionnerai pas son nom. Son anglais n'était pas fameux, mais on le comprenait. On comprenait ce frère. Il n'était pas un grand prédicateur. Il a laissé derrière lui aucun livre. Mais il a laissé un témoignage. Et un frère de son église m'a dit que personne, aucun membre dans son église se plaignait de son anglais, de ses prédications, des fois pas structurées, des fois pas claires. Personne se plaignait parce que son amour pour eux ne faisait aucun doute. Les gens de son église savaient que cet homme se souciait de leur bien-être spirituel. Et Paul manifeste ce type d'amour ici, ce souci pour les personnes. En anglais, il y a une expression, et c'est cette expression-là que le frère a utilisée à ce moment-là. Il dit « he cares ». Et je pensais à cette expression-là, « he cares ». Et il me semble que c'est une expression qui a plus de richesse que de dire « il prend soin ». Vous savez, les pasteurs, les bergers, vous, on doit prendre soin des gens. Mais on peut prendre soin sans avoir d'affection pour eux. On peut prendre soin parce que c'est notre travail. On est rémunéré pour ça. Peut-être que c'est le sens du devoir. J'ai pris soin. Mais dans l'expression « he cares », il y a plus que la volonté de prendre, de faire du bien. Ça inclut aussi le cœur de la personne qui prend soin. Je ne sais pas quelle expression on pourrait avoir en français qui communique cela. Mais l'important pour l'apôtre Paul, c'est qu'on désire prendre soin, pas par devoir, mais parce qu'on les aime, parce qu'on a une affection pour eux. On voit l'attitude qui est dans le serviteur, dans le passage d'Ésaïe, chapitre 53, verset 11. C'est un passage que plusieurs ont lu. On voit ce texte, « Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Et il se chargera de leur équité. » Eh bien, c'est à cause du travail de Paul. Il a mis tout son cœur. Il rassasiera ses regards. Il trouvera une grande joie devant le résultat de son travail. Et c'était l'attitude que l'apôtre Paul avait. Et c'est l'attitude qu'on nous, on doit avoir aussi. Paul était motivé par une affection, un amour incomparable qui ressemble à celle de Christ. On voit aussi que Paul se réjouit quand il entend que ceux envers qui il a eu une certaine influence grandissent. Certainement qu'on peut le voir au chapitre 1, dans les versets 2 à 3, où Paul mentionne, nous disons constamment à Dieu toutes sortes, toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Et il va pour décrire le progrès que les Thessaloniciens ont fait. Et il le fait aussi dans le passage qu'on est en train de voir. Son désir, c'est qu'ils grandissent dans le Seigneur. Il veut leur faire du bien. Il veut les affermir, les exhorter dans leur foi. Il ne cherche pas son intérêt. Au chapitre 3, les versets 6 à 8, lorsque Timothée arrive avec de bonnes nouvelles, Paul est rempli de joie, même s'il fait face à des épreuves, des atrocités. Il est consolé parce que Timothée lui amène de bonnes nouvelles. Tellement qu'il dit au verset 8 qu'avant, ils étaient comme morts dans les persécutions, dans les tribulations. Mais à cause des nouvelles qu'il reçoit, il est comme vivant. Il aura retrouvé la vie. Au verset 7, il dit, « Nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. » Ça nous amène à nous poser une question. Qu'est-ce qui nous donne une joie aussi grande? Est-ce quand je gagne au skip-ball ou au bridge? Je ne veux pas signaler personne. C'est pour ça que j'ai ajouté bridge. Parce que j'aime beaucoup le bridge. S'il y a des joueurs de bridge, on en cherche. Mais ce n'est pas ce qui fait notre plus grande joie. Est-ce que les Canadiens de Montréal gagnent la Coupe Stanley? Si oui, vous ne trouvez pas grande joie de ce temps-là. Ou bien que les Patriots gagnent le Super Bowl? Malheureusement, ils ont perdu cette année. Est-ce que ton époux t'a demandé en mariage? Ou quand ton épouse présente, elle dit oui. Est-ce que quand tu reçois une voiture neuve, il y a une certaine joie dans ces choses, mais ça ne doit pas faire notre plus grande joie. Ils n'ont pas une portée éternelle. Même notre conjointe, un jour, elle va décéder. Mais si elle est là, avec nous, eh bien, c'est une autre chose. Et Paul nous dira cela quand il s'adresse aux hommes. Il dit, n'oubliez pas, vous avez une responsabilité envers votre femme pour qu'elle soit sanctifiée, pour qu'elle grandisse dans le Seigneur. L'apôtre Jean dit dans sa troisième épître au verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il ne fait pas référence seulement quand le Seigneur va revenir. Il fait référence à maintenant, à aujourd'hui, quand il voit ses enfants marcher en obéissance, marcher dans la vérité. C'est la joie qu'on a quand une personne que nous avons influencée marche selon la vérité. On est content quand ceux qu'on n'a pas influencés marchent dans la vérité. Mais notre plus grande joie, c'est quand que nous, nos efforts, notre influence a porté du fruit. Et on se réjouit du fruit que ça a porté. D'entendre qu'une personne grandit dans sa foi, dans sa fidélité, dans son amour pour Dieu et pour son prochain, dans son mariage et bien d'autres situations, c'est excitant. C'est fantastique, c'est super, c'est cool. C'est cool qu'une partie de ma vie a porté fruit chez d'autres. C'est ce qui est fantastique pour l'apôtre Paul. Quand un couple en difficulté cherche conseil, travaille à régler leurs différends, se tourne vers Dieu pour le glorifier dans leur vie de couple, c'est fantastique. Vous en parlerez à Sylvain Pilide, comment ça réjouit leur cœur de voir un couple marcher dans la vérité. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie, dit-il au verset 20. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Ce sont les sentiments de Paul pour les Thessaloniciens. Eh bien, si je suis ce que je suis, c'est que des personnes ont prié pour moi comme Paul a prié pour les Thessaloniciens. C'est ce qui faisait la plus grande joie de ces personnes-là. Qu'en est-il de moi? Prions. Seigneur Dieu, que ta gloire et la plus grande joie soient la croissance spirituelle des gens sur qui tu es en train de transformer. Merci, Seigneur, de ta grâce à mon égard, de ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour véritable que personne ne peut éloigner de moi. Et Seigneur, que ça me motive à faire la même chose envers les personnes qui font partie de ton Église. Par Jésus. Amen.